Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Fin de la grève massivement suivie dans les transports publics. Les syndicats continuent à demander la modification des réformes gouvernementales. Une controverse au sein du gouvernement tchèque à propos de la politique étrangère du pays. En football, la Supercoupe se jouera à Prague en 2013. À minuit s'est terminée la grève de 24 heures déclenchée par les syndicats en signe de protestation contre les réformes d'austérité prévues par le gouvernement, notamment celles du système des retraites et de la santé. Le transport ferroviaire a repris après avoir été totalement arrêté. Les transports en commun à Prague et dans d'autres grandes villes ont fonctionné en service très limité. Aucun métro n'a circulé à Prague. Lundi prochain, lors de la réunion du gouvernement avec les représentants des syndicats et des employeurs, les syndicalistes insisteront sur une modification des réformes envisagées par le gouvernement. Ils demandent également la démission du ministre des Finances, Miroslav Kalousek. Le président de l'association des syndicats indépendants, Bohumír Dufek, l'a déclaré ce vendredi à l'issue d'une réunion extraordinaire de la Confédération des unions syndicales de Bohême et de Moravie. Les syndicats critiquent le comportement du ministre Kalousek venu discuter jeudi avec les manifestants contre les réformes gouvernementales. Le président de la République, Václav Klaus, estime que la grève dans les transports publics a eu un impact négatif sur la vie des gens ordinaires et non pas sur la vie des hommes politiques, comme l'avaient souhaité les organisateurs des protestations. Le chef de l'État l'a déclaré ce vendredi en formulant l'espoir que les syndicalistes renoncent aux prochaines grèves. Au début de cette semaine, Václav Klaus avait sévèrement critiqué les protestations des syndicats contre les mesures de restriction planifiées par le gouvernement. Le président a évalué la grève comme politique et a appelé le gouvernement à une réaction déterminée. Le quotidien tchèque Lidové Noviny a informé ce vendredi d'une controverse au sein du gouvernement tchèque à propos de la conception de la politique étrangère de la République tchèque pour les prochaines années, soumise au cabinet par le chef de la diplomatie Karel Schwarzenberg. Celle-ci aurait été critiquée par le premier ministre Petr Nečas et le ministre de la Défense Alexander Vondra comme étant trop orientée à l'Union européenne. Comme annoncé ce vendredi par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Vít Kolář, suite à cette critique, le chef de la diplomatie s'est engagé d'élaborer un nouveau projet de la politique étrangère et d'élargir, par conséquent, le chapitre consacré aux relations entre la République tchèque et l'OTAN. Pour le journal Lidové Noviny, Karel Schwarzenberg avait rejeté la critique du gouvernement en indiquant que les affaires européennes concernaient également la République tchèque. Lors de sa réunion de jeudi à Nyon, le comité exécutif de l'UEFA a adopté à l'unanimité les sites pour les finales des compétitions des clubs de l'UEFA en 2013. Et un site de la capitale tchèque fait partie des trois. Il s'agit du Stade Eden et du quartier de Vršovice que se partagent en temps normal le Slavia et le Bohemians. Le stade de Wembley à Londres accueillera la finale de l'UEFA Champions League alors que l'Amsterdam Arena recevra celle de l'UEFA Europa League. Les deux vainqueurs se retrouveront pour disputer la Supercoupe de l'UEFA à l'Eden de Prague. Côté météo, après une journée ensoleillée, le ciel se couvrira. Samedi, des orages et des averses seront plus fréquents. Les températures seront comprises entre 16 et 21 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. L'actualité en cette fin de semaine a bien entendu été marquée par la grève des transports publics, comme vous venez de l'entendre dans les infos. Cette grève a eu au moins un point positif. Désertée par les automobilistes, Prague s'est transformée l'espace d'un jour en un petit paradis pour les piétons et plus encore pour les cyclistes. Comme l'ont noté ironiquement certains, les syndicats des sociétés des transports, en décidant de la tenue de cette grève, ont fait plus en un jour pour la promotion du cyclisme que la municipalité de Prague en plusieurs années. Reportage dans quelques instants. La seconde partie de ce journal sera, elle, consacrée à la musique et au groupe tchéco-français Bran, un groupe à succès composé de musiciens tchèques et bretons dont nous entendrons la nouvelle chanteuse. Enfin, la rubrique du jour sera consacrée à la quadriennale de Prague. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute. La grève des transports publics qui s'est tenue jeudi laissait craindre le pire quant à la circulation sur les routes tchèques. aucun train ne circulant dans tout le pays et les transports en commun fonctionnant en service très limité, on s'attendait à d'interminables embouteillages. À Prague, en premier lieu, où le métro, qui assure plus de 40% des trajets et transporte plus de 1,5 million de passagers chaque jour, est resté fermé toute la journée pour la première fois de son histoire. Finalement, loin d'un jeudi noir, la capitale tchèque a vécu une journée comme elle aimerait en vivre plus souvent. Les banlieusards avaient en effet pris leurs précautions et beaucoup ont préféré rester chez eux pour profiter du temps ensoleillé, tandis que les Pragois ont été très nombreux à se rendre au travail à pied ou à vélo. Prague s'est transformée en Hanoï, Cyclo-Prague a dépassé Amsterdam ou encore la grève a converti des milliers de Pragois au cyclisme. Tels sont quelques-uns des titres qui ont choisi les quotidiens tchèques pour commenter une des principales conséquences de la grève de jeudi. Vidée de ses voitures, autobus et tramways, la capitale tchèque est effectivement devenue, l'espace d'un jour, un petit paradis pour les cyclistes et les piétons. Comme le note ironiquement Vitek Massaré, responsable d'Automat, une association qui lutte pour la limitation de la circulation automobile à Prague, personne avant les syndicats n'était jamais parvenu à en faire autant en si peu de temps en faveur de la pratique du cyclisme urbain.
Cette grève a réussi ce que les politiques pragois, ni même les initiatives civiques, n'ont jamais réussi à faire ces dernières années. La paranoïa de ces derniers jours a fait que des dizaines, voire peut-être des centaines de milliers de Pragois se sont déplacés à pied ou à vélo. Et ils se sont rendus compte que cela n'était pas impossible. Les premières réactions que nous avons recueillies sont presque toutes positives. Pour les gens, il y avait d'abord une barrière mentale à franchir. Après, il fallait qu'ils se fassent une idée de l'utilisation du vélo à Prague, et je pense que cela leur a plu.
Soleil radieux aidant, un air de week-end estival régnait dans les rues du centre-ville jeudi, là où habituellement l'omniprésence des voitures empêche pratiquement tout cycliste potentiel normalement constitué de s'aventurer sur les mêmes voies de circulation, les vélos régnaient en maître cette fois, et chiffre à l'appui, Vitek Massaré confirme.
Selon les statistiques, un peu plus de 10 000 personnes à Prague se rendent chaque jour à leur travail à vélo. Ce matin, rien qu'entre 7 et 8 heures, c'est-à-dire à l'heure de pointe, les appareils de mesure sur les pistes cyclables ont recensé près de 10 fois plus de cyclistes. Mais comme ces appareils de mesure ne sont pas partout, on peut estimer qu'il y avait plus de 100 000 personnes à vélo ce matin à Prague.
Par crainte d'embouteillage monstre, nombreux sont les Pragois vivant à l'écart du centre-ville qui ont préféré laisser leur voiture au garage. Mais pour les usagers des transports en commun, parmi les plus nombreux en Europe, le vélo a été un choix certes agréable mais forcé, comme l'admet cette jeune femme cycliste occasionnelle.
Normalement, je me déplace d'abord en bus, puis en métro avant de prendre encore un tram jusqu'à mon lieu de travail. Aujourd'hui, je me suis rendue jusqu'à cet arrêt de bus à vélo et j'espère qu'un bus va bientôt passer, même si je ne sais pas combien de temps je vais devoir attendre. Ensuite, si le bus passe bien et une fois que j'en serai descendue, il faudra que je remonte sur mon vélo et que je me débrouille pour me rendre au travail, car je vais descendre dans un coin que je ne connais pas bien. Mais si le bus ne passe pas, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne suis pas habituée aux longues distances et je ne serai pas capable de faire tout le trajet uniquement à vélo.
Les partisans d'une Prague plus accueillante pour les cyclistes et mieux adaptée à la pratique du vélo espèrent que la grève de jeudi contribuera à faire évoluer les mentalités des habitants de la capitale et d'abord celles des cyclistes potentiels qui se plaignent souvent des mauvaises conditions, notamment de sécurité. Vitek Massaré estime que c'est d'abord aux amateurs de vélo de se mobiliser.
Je pense que plus que le nombre de voitures dans les rues, ce qui importe est le nombre de vélos. Les gens qui se déplacent à vélo se sentent rassurés quand ils voient qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a d'autres cyclistes autour d'eux. Et surtout, ils n'ont pas le sentiment de gêner ou de ne pas être à leur place.
Une chose est sûre, jeudi, les dizaines de milliers de cyclistes sur les routes n'ont gêné personne, et surtout pas ceux qui regrettaient presque qu'il n'y ait pas plus souvent de grève des transports à Prague. On passe à la musique. Le groupe franco-tchèque Bran est bien connu depuis plusieurs années sur la scène pragoise. Composé de musiciens tchèques et bretons, le groupe est né en 1999 à l'initiative de David Pajot. Aujourd'hui, une page s'est tournée puisque c'est désormais la chanteuse et danseuse Sara Navarro qui le remplace au chant. Sara Navarro a bien voulu revenir sur son entrée dans le groupe et sur les changements au sein de celui-ci. Elle répond aux questions d'Anna Kubishta.
Alors en fait, ça a été un petit peu une surprise pour moi parce que c'est eux qui m'ont contactée. Je connaissais David Pajot par l'intermédiaire donc de l'Institut français et effectivement je connaissais le groupe. Je les avais vus en concert plusieurs fois. Et en fait, David Pajot est parti s'installer au Canada et en fait, par l'intermédiaire d'un ami, on m'a contactée, j'ai passé une audition. Ils m'ont prise dans le groupe et en fait, en décembre, on a partagé la scène donc avec David à deux reprises à la Balbinova. Et après, à partir de janvier, lui, une fois qu'il est parti, donc c'est moi qui ai pris le chant en fait dans Bran. Et on a aussi recruté un saxophoniste pour donc des parties instrumentales.
Alors justement, Bran, c'est un groupe franco-tchèque, breton, de musique bretonne. Qu'est-ce que ta venue finalement change dans ce groupe? Parce qu'évidemment, c'est un changement en dehors du fait que c'est une voix féminine. Comment est-ce que tu vois l'évolution justement du groupe et de sa musique?
Alors bon, jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas eu vraiment de changement dans le sens où on est encore sur un répertoire qui correspond à un disque live qu'ils ont sorti l'année dernière. Donc il y a eu des transpositions un peu d'harmonie et tout ça. C'est vrai que j'ai un style de voix complètement différent de David, donc c'est évidemment plus féminin. Mais c'est vrai que voilà, progressivement on va essayer donc de mettre en place un nouveau répertoire, enfin de nouvelles compositions. Donc il y a déjà deux compositions à moi qu'on présente dans les concerts. Donc effectivement, il y a peut-être plus aussi une influence latine ou quelque chose comme ça qui vient un peu se rajouter.
Hors micro, tu me disais que c'était plus jazzy d'une certaine façon.
Oui. En fait, on a un flûtiste qui est virtuose. On a ce saxophoniste aussi qui est doué. Donc c'est vrai qu'il y a des parties solo. Alors ça devient comme ça, oui, un peu plus jazzy, je pense.
Comment réagit le public habitué finalement à David Pajot et à Bran, ancienne version?
Oui, c'est vrai que David Pajot était très très connu, était vraiment la figure centrale du groupe. Donc ça arrive que des fans viennent me voir catastrophés, où est David, comment il va et comment c'est possible qu'il soit parti. Donc là, dans ces cas-là, voilà, moi j'ai dit écoutez, maintenant c'est moi qui chante, donc il va falloir accepter le chant. Mais globalement, en fait, il y a de très bons retours. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on a changé le son du groupe de manière quand même assez marquée, ça reste Bran, mais avec un nouveau souffle et les gens réagissent bien.
Alors, vous avez une actu assez importante au niveau concert maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, alors, donc là, ce soir, on va en fait jouer en première partie du concert d'Alan Stivell à Český Krumlov. Donc, ça va être en plein air, dans une espèce de brasserie. C'est le Pivovar Egenberg, donc de Český Krumlov. Alors pour nous, c'est évidemment un grand honneur, un grand plaisir d'être là et de pouvoir comme ça se retrouver au même endroit avec cet artiste qui est quand même vraiment significatif dans la musique bretonne. Et puis oui, en fin de semaine, on va aussi enregistrer une chanson, une berceuse en fait, dans le cadre d'une compilation qui va être produite par Indies Records, qui devrait sortir à l'automne. Et puis on a plusieurs festivals, donc au mois de juillet, au mois d'août, donc voilà, pas mal de concerts à venir.
Est-ce qu'il y a un site internet où on peut consulter ces dates de concerts?
Oui, bien sûr. Alors sur donc le site du groupe, c'est www.branband.cz. Et puis sur le MySpace de Bran, c'est BranCZ.
Voilà, c'est avec la musique du groupe franco-tchèque Bran que s'achève ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. La rubrique du jour est un peu spéciale puisqu'elle est consacrée à la Quadriennale de Prague qui a commencé jeudi dernier. C'est la 12e édition de cette exposition mondiale consacrée aux arts vivants qui se déroule dans la capitale tchèque tous les 4 ans depuis 1967. De nombreux événements sont au programme jusqu'au 26 juin. Expositions, performances, séminaires. Et parmi les professionnels venus pour animer des séminaires, Alexis Rosenzweig a rencontré Kone Wanilba Josselin, venu de la Côte d'Ivoire, interview dans cette émission spéciale à l'occasion de la Quadrienne.
Mon nom c'est Kone Wanilba Josselin.
Qu'est-ce qui vous amène à Prague ?
Ah, c'est la Quadriennale de Prague, bien évidemment, le rendez-vous des Cénofest. Et ici, je présente un projet qui est Africa 50. Voilà, Africa 50 qui fait un peu une sorte de retour sur les 50 ans d'indépendance, les célébrations des 50 ans d'indépendance de l'Afrique. Voilà, nous, en tant que scénographes, nous essayons également à notre manière de faire le bilan des 50 ans d'indépendance des pays africains.
En quoi consistait le séminaire que vous avez présenté aujourd'hui ?
Alors, ici, il était question de montrer une technique que nous sommes en train de développer en ce moment en Côte d'Ivoire, au sein de notre organisation qui est le CRESAS. Il était question de présenter cette technique-là qui consiste à ramasser des ordures dans des poubelles et à leur redonner une nouvelle vie à travers la scénographie.
Du recyclage, en quelque sorte.
Tout à fait, c'est du recyclage, voilà.
Quelles sont les méthodes dont vous avez parlé aux étudiants et combien est-ce qu'il y avait d'étudiants ?
Au départ, ils savaient qu'on devait travailler les ordures, mais ils ne savaient pas concrètement comment s'y prendre. Et je leur ai dit ce matin, j'ai commencé par une sorte d'introduction. Je leur ai fait un peu le tour d'abord de la question. Qu'est-ce que j'entends par Africa 50, qui est le projet que je présente ? Et puis après, je leur ai dit, on part sur le principe que nous n'avons rien. Il n'y a rien à la base, il n'y a que des ordures. Voilà une poubelle, fouillez dedans, sortez-moi quelque chose et parlez-moi des 50 ans de l'Afrique.
Vous avez une démonstration avec une poubelle ?
Oui, voilà la poubelle qui est là. Vous avez la poubelle jaune qui est au centre là. C'est la seule poubelle à l'intérieur de laquelle il y avait les ordures.
On peut aller voir ?
Oui, on peut aller voir.
Vous l'avez ramené ?
Oui, on a remis les ordures à l'intérieur de la poubelle. Et les ordures sont encore là, vous pouvez voir.
Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette poubelle ?
C'est les restes des éléments qui étaient, de manière ordinaire, qui étaient dans la poubelle, qui ont été sortis de la poubelle pour créer des scénographies, des installations scénographiques. Et puis après les installations, on a tout détruit et puis on a remis les ordures dans la poubelle. Et je pense qu'à la fin de l'atelier, ce qui est intéressant, c'est que les apprenants ont compris que ces ordures ne sont plus des ordures ordinaires. Parce que ces éléments qui sont là peuvent servir. Et c'est ce qui est intéressant dans le travail. C'est cette conclusion à laquelle chacun arrive sans que forcément quelqu'un lui dise voilà la conclusion à laquelle on va arriver. C'est ce qui est intéressant.
Et alors, ce n'est pas seulement des sacs plastiques où on voit de tout. Alors, je vois des morceaux de ferraille, il y a aussi des capsules de bouteilles.
Oui, bien sûr. Tout ça, ça fait partie des ordures. C'est à l'intérieur de la poubelle, ils ont trouvé ces éléments. Donc, quitte à prendre une ficelle qu'il a trouvée, il se dit, ah, tiens, cette ficelle peut me permettre de faire des cheveux, tel tissu peut me permettre de faire ceci. Et c'est du racolage des éléments qu'ils ont eu à faire. Et ça a donné un résultat qui les a surpris. Et puis après encore, on leur dit, bon, c'est fini, il faut détruire tout. Et puis ça repart à la poubelle. C'est fantastique.
C'est parti de votre propre expérience ?
Oui, c'est parti de ma propre expérience parce qu'en Afrique, la scénographie, c'est d'abord quelque chose de nouveau. Et pour toute personne qui s'adonne à ce métier en Afrique, il est clair qu'au départ, il n'a pas d'appui. Il n'y a aucun appui financier. Il faut créer. J'avais une sorte d'expression à l'époque, je disais, il faut créer sur os. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur l'os, mais il faut bien créer sur cet os-là. Et donc, il faut partir de rien pour pouvoir créer quelque chose, surprendre le monde et puis un jour avoir la confiance de ceux qui sont en face de toi afin qu'un jour ils te respectent. Et c'est parti de ma propre expérience en Côte d'Ivoire.
Vous avez fait plusieurs décors à partir de choses uniquement trouvées dans des poubelles ?
Tout à fait, oui, bien sûr. Depuis 2001, je me suis adonné à cela. Au départ, mes amis ne croyaient pas. Ils se moquaient de moi, ils disaient que je m'étais égaré, j'avais perdu mon chemin. Mais j'ai cru, j'ai forcé, j'ai foncé. Et aujourd'hui, je suis à un résultat très satisfaisant. Je vis aujourd'hui de mon métier de scénographe, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
Vous avez également mentionné l'association dont vous êtes le président, CRESAS, c'est bien ça?
Oui, le CRESAS. Le CRESAS que j'ai créé en 2008. Et CRESAS signifie Cercle de Recherche et d'Échange en Scénographie et Art de la Scène.
Elle est uniquement en Côte d'Ivoire ou ça regroupe plusieurs pays africains?
Elle est uniquement, pour le moment, elle est uniquement en Côte d'Ivoire. Mais l'esprit, c'est de créer ce cercle-là qui va prendre tous les pays africains. Mais ce que nous avons fait en ce moment, c'est que nous sommes en train de créer un réseau. À partir du CRESAS d'Abidjan, nous avons installé une autre structure qui s'appelle FASO-SENO. Cette structure, elle est au Burkina Faso. Nous sommes en train d'installer une structure au Togo. C'est Kourou-SENO. Au Bénin, c'est Place-SENO. Voilà. Et ces différentes structures vont se mettre en réseau, inciter d'autres structures dans d'autres pays, et puis un jour, nous aurons une grande plateforme de scénographes africains.
C'est ce genre de projet artistique, culturel, qui permettent de parler de la Côte d'Ivoire autrement que ce qu'on voit dans les médias?
Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que, et c'était mon combat lorsqu'il y avait la crise post-électorale, jusqu'au dernier jour où les bombardements nous ont menés à se terrer dans les maisons, je disais à mes stagiaires, il faut que nous aussi nous menions notre part de combat. En tant qu'artistes, notre métier n'est pas d'aller prendre des armes ou d'aller insulter des gens ou aller parler politique, mais à notre manière, utilisons nos éléments, nos instruments artistiques pour emmener nos concitoyens à comprendre que l'essentiel n'est pas de se battre, mais de chercher à développer, à construire le pays.
Ça représente quoi pour vous la Quadriennale de Prague, pour vous artistes africains?
La Quadriennale de Prague représente beaucoup pour nous. D'abord, c'est un événement majeur qui est inédit. En Afrique, on n'a pas encore un événement comme la Quadriennale de Prague. C'est vraiment l'occasion de rencontrer d'abord des scénographes, de savoir que la scénographie est un événement, est un métier très important dans le monde. Et j'avoue que, c'est une parenthèse que je vais ouvrir, c'est sur le net, par exemple, que j'ai découvert qu'il y avait une organisation internationale des scénographes et techniciens de théâtre. Et ça, c'est des années après mon combat de scénographe en Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça existe. Et j'ai écrit, j'ai fait un courrier à l'organisation. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse. Mais je ne me suis pas découragé parce que je me suis dit, bien évidemment, il se peut qu'on pense que c'est un internaute comme ça qui a écrit. Et quand j'ai reçu l'invitation pour l'événement de la Quadriennale de Prague, je me suis dit, je vais rencontrer des scénographes et je vais me rendre plus crédible auprès des scénographes des autres pays. Et désormais, je pense que quand je vais maintenant écrire à l'organisation et que je vais dire j'ai été à la Quadriennale de Prague, je vais indiquer des éléments, on va plus me prendre au sérieux et puis on va plus prendre au sérieux l'organisation dans laquelle je suis. Et je pense que nous aurons à partir de cet instant-là des partenaires, parce que c'est de ça que nous avons besoin en Côte d'Ivoire, des partenaires artistiques qui peuvent venir nous accompagner dans notre démarche de travail, avec lesquels on peut échanger à distance, comme en les invitant en Côte d'Ivoire, comme en se faisant inviter également ailleurs. Voilà. En ce moment, par exemple, nous sommes en train de créer au niveau du CRESAS une deuxième génération de scénographes. Moi, ayant mené mon combat, aujourd'hui, je suis en train de me confirmer scénographe. J'ai acquis une certaine expérience et je la partage également à une nouvelle génération. Et cette génération-là, nous l'avons nommée l'écurie du CRESAS. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette écurie, nous disons, nous voulons former des scénographes performants. Performants tant au niveau de la pratique qu'au niveau même du droit du scénographe en tant que technicien de scène. À partir de ce moment, nous allons rentrer dans une nouvelle démarche qui est de revendiquer certains éléments professionnels dont le scénographe a, j'allais dire, qui relève du droit du scénographe. Parce qu'en Afrique encore, quand on t'appelle pour une scénographie, on te paye comme un vulgaire ami. C'est un échange, c'est un service. C'est pas une profession, on ne te rémunère pas selon ton métier, mais on te rémunère parce que par connaissance, par affinité. Et cela, ça fait que on ne peut pas vivre encore de ce métier de scénographe, tant que ça fonctionne comme ça. Donc en créant l'écurie, nous sommes en train de créer une nouvelle génération de scénographes qui va s'engager dans de nouveaux débats autour de ce métier.
C'est donc avec le scénographe ivoirien Kone Wanyelba Jocelyn que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.